En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Notre séance, la première de l'après-midi, est ouverte. Et j'ai donc le plaisir, comme vous le savez, d'accueillir Catherine Bréchignac. Catherine Bréchignac est secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, physicienne. Au fond, nous avons eu, entre hier et aujourd'hui, trois vrais scientifiques, donc, en la personne de Yves Agide, qui nous a parlé du cerveau, de Pascal Cossard, qui nous a parlé de microbiologie, de nutrition et surtout de bactéries. Et avec Catherine Bréchignac, nous allons entrer dans le domaine le plus extraordinaire, parce que le plus difficile d'accès, qui est celui de la physique. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu cette rencontre, cet entretien, parce que, en effet...
Cette conversation.
Cette conversation, et Catherine a bien raison d'insister sur ce mot, parce que c'est grâce à cela que nous allons mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et au fond, ce qui m'a frappé quand j'ai rencontré Catherine Bréchignac pour préparer cette conversation, c'est quand je lui ai dit « Mais au fond, de quoi vous occupez-vous » Et la physicienne qu'elle est, qui a été tout de même la directrice générale, la patronne du CNRS. Donc hier, vous aviez la Pitié-Salpêtrière, puis l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, c'est le CNRS, patronne du CNRS, donc l'ensemble des laboratoires de recherche du CNRS. Bon, quelle est la nature exacte de ce qu'est un physicien par rapport aux autres, aux chimistes, aux biologistes, etc. Quelle est sa particularité? Et c'est ça que j'aimerais que vous redisiez, parce que je trouve que vous avez été très très bonne et très forte dans notre entretien préalable.
Bon, merci beaucoup François pour m'avoir invité à cette conversation. Je trouve que le mot est très approprié. Alors qu'est-ce qu'un physicien ou une physicienne? Eh bien, au fond, c'est le législateur de la science. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous regardez qu'est-ce que la science est une construction humaine pour comprendre ce qui nous entoure, pour prévoir aussi des phénomènes que l'on n'a encore pas découverts, et puis pour créer des nouveaux médicaments ou des nouveaux matériaux. Et dans cette construction de la science, vous avez les outils qui sont les mathématiques et l'informatique, qui sont les langages, ces outils, alors qui sont aussi des domaines scientifiques dans lesquels on travaille, on fait de la recherche, bien évidemment. Mais ensuite, vous avez ceux qui s'intéressent aux lois, les mécanismes, les lois. Donc, ces lois, c'est pour ça que je dis les législateurs, sont les physiciens. Et ensuite, vous avez des domaines où ces lois s'appliquent, qui sont les matériaux inertes, et les matériaux vivants. Et maintenant, on a un troisième trépied, si je puis dire, qui est tout ce qui est beaucoup plus complexe, comme l'environnement, le climat, et ces ensembles, la planète, enfin ces ensembles, ces objets beaucoup plus compliqués, qui ont aussi les lois, qui utilisent aussi, bien sûr, les lois qu'ont trouvé les physiciens. Donc nous recherchons les lois fondamentales. Les constantes fondamentales. Dans cet univers, si vous voulez, c'est comme si vous vouliez vous raccrocher à des rochers que vous savez absolument fixes. Et ça, ce sont les physiciens. Alors, évidemment, les physiciens, vous n'en rencontrez pas très souvent parce que c'est un peu ardu parfois, mais quand même, on essaye de faire un effort et d'expliquer le plus clairement possible ce que c'est que la science.
Et alors, les lois de la physique, quelle a été la première loi découverte par un physicien qui a permis d'aller...
Alors, je dirais que Le premier vraiment réellement physicien dans le sens où on a découvert des lois, c'est Newton avec la gravitation, quand il a compris que deux corps, deux masses s'attirent. Alors maintenant, c'est plus compliqué que ça. Mais enfin, pour l'instant, au départ, il prend deux masses et il voit qu'il y a une force qui attire, qui fait que les objets tombent sur la Terre. Et je dirais que le premier qui a vraiment fait des expériences pour faire un modèle et le comparer à l'expérience, c'est Galilée. Galilée, c'est vraiment le premier, avec la chute des corps, à avoir essayé de comprendre comment, non pas... Parce que Newton, lui, il regardait les lois. L'histoire de Newton est absolument extraordinaire. C'était du temps de Descartes et de Newton. Alors, Descartes, lui, il voulait comprendre comment était créé l'univers. Donc, il était reparti dans toute une histoire, la création de l'univers. Donc, il avait inventé la théorie des tourbillons, etc. Et avec sa rationalité, il était vraiment axé sur le fait de dire « on essaye de comprendre le début, puis ensuite tout en découlera ». D'ailleurs, Descartes disait toujours « il faut d'abord résoudre un problème, et puis ensuite, une fois qu'on a compris au niveau élémentaire, on peut l'étendre ». Ce qui s'avère juste dans certains cas, mais pas tout à fait suffisant dans d'autres, parce que des phénomènes beaucoup plus complexes arrivent. Et Newton, lui, était complètement quelqu'un qui était très ésotérique, qui croyait aux forces occultes. C'était un personnage absolument extraordinaire, et donc à la magie, enfin bref. Et il ne voulait pas s'intéresser à la compréhension du début de l'univers. Il voulait comprendre, il voulait voir la loi, pourquoi les forces, les masses s'attirent. Et au fond, il a trouvé cette gravitation universelle au départ. Et c'est, lui ne s'intéressait pas, il disait c'est Dieu qui a créé l'univers, alors moi je ne veux pas savoir l'origine, je veux comprendre ce qui se passe maintenant. Donc ça a été presque, je dirais, le premier à avoir cette attitude de physicien qui s'intéresse aux lois. Ensuite Galilée, évidemment, avec la chute des corps. Alors on raconte l'histoire de Galilée quand il était... un dimanche à la messe, qui voyait se balancer le lustre, il dit mais c'est drôle, quelle que soit la masse qui est au bout d'un fil, elle se balance toujours avec la même période en fonction de la longueur du fil, enfin bref. Et donc après on raconte l'histoire qu'il était monté au rang de la tour de Pise, il faisait tomber les objets. Ça, c'est une expérience fabuleuse. Vous voyez deux objets de masse très différentes. Vous prenez vous par exemple et votre petit-fils. J'imagine. Vous voulez plonger. Vous allez dans un plongeoir, vous êtes beaucoup plus lourd que lui, vous partez, vous arrivez ensemble en bas. Alors ça avait beaucoup intrigué les gens. Pourquoi deux corps, deux masses très différentes, vous prenez une grosse armoire normande et une petite bille, vous les mettez au haut de la tour de Pise, vous les faites tomber, ils arrivent ensemble en bas. Or, quand vous êtes ici, pousser une petite bille, c'est rien, et pousser une grosse armoire normande, c'est très lourd. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi deux corps de masse très différentes arrivent en même temps au sol alors que deux masses différentes sont... Donc Galilée a voulu essayer de comprendre ça et donc s'est intéressé à la chute des corps. Mais au lieu de les laisser tomber comme ça brutalement, c'était vite, ça allait vite, c'était pas très compréhensible. Alors l'histoire de la tour de Pise, c'est faux, mais enfin il faisait autre ailleurs. Mais il a surtout inventé le plan incliné, parce qu'il s'est dit, si je les fais descendre plus lentement, j'aurai le temps de faire des mesures, et je pourrai mesurer le temps qu'il faut pour qu'une masse partant d'une certaine hauteur descende à une autre, et sur le plan incliné, je changerai la taille de la masse, etc., je vais regarder la loi. Et il mesurait le temps avec les battements de son cœur. Donc il avait la longueur et il mesurait le temps. Et il a comme ça défini la première loi, vraiment, de la chute des corps.
Ok, c'est ce que l'on a retenu de notre classe de physique, le kilo de plume et le kilo de plomb.
Voilà. Alors maintenant, cette expérience de Galilée, qui est une expérience de montrer que la masse gravitationnelle est égale à la masse inertielle, ça c'est vraiment une expérience fondamentale. Les théories actuelles cherche une différence entre ces deux masses, et on a fait actuellement, on est en train de faire avec une expérience qui s'appelle Microscope, qui est un satellite, un petit satellite qui tourne autour de la Terre, dans lequel on a essayé de mettre le moins de pesanteur possible et de regarder comment tombent les masses, et pour l'instant à 10 puissance moins 15, c'est-à-dire 0,1501, vous avez la même masse. Donc, pour l'instant, on n'a pas de différence entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle.
Donc, avec les moyens les plus...
Et les Américains vont essayer de faire une expérience encore plus sophistiquée, ouais, à 10-18. Et quand vous arriverez à 10-18, là, il y a beaucoup de théories qui vont tomber parce que ce ne sont pas compatibles avec cette chose.
Ouais. Sauf où...
Moi, je suis passionné par cette expérience. Je regarde évidemment régulièrement les résultats.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est pour contester ou confirmer la Newton. C'est quand même pour...
C'est pas Newton, parce que Newton n'était pas là. C'est pour essayer de comprendre, qu'est-ce que c'est que la masse.
Oui.
Parce qu'on n'a toujours pas bien compris ce que c'était que la masse et pourquoi des masses dans l'univers vont vous modifier l'espace-temps. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette histoire, mais... Parce que l'univers n'est pas lisse, c'était plein de creux et de bosses comme des collines et des vallées, et les masses font déforment cette surface, et les autres masses qui arrivent tournent autour des premières en descendant les collines. Voilà. C'est la nouvelle représentation de ce que faisait Newton quand lui...
Voilà. Très bien.
Et que vous, quand vous sautez d'un plongeoir.
Ok.
Donc nous on s'intéresse aux lois. Voilà.
Vous vous intéressez aux lois et au fond, ce sont les lois.
Et je vérifie surtout, parce que je suis législateur, que les lois sont bien vérifiées. Parce que si une loi tout d'un coup n'est plus vérifiée, alors il faut en trouver une autre, il faut comprendre une autre loi et se dire voilà, la précédente n'était pas suffisante.
Ah oui, c'est ça. On va de loi en loi. Et voilà. Vous les amendez en fonction...
Et on les amende, mais comme le législateur dans la société. Hein.
Tout à fait, absolument.
Oui, oui.
Donc vous les corrigez en fonction de ce que vous trouvez.
Voilà.
Et alors, l'autre chose que vous m'avez dite et qui me paraît aussi passionnante, c'est le scientifique ou la scientifique que vous êtes, le physicien, etc., ne crée pas. Il trouve, le scientifique ne crée pas.
Alors, vous avez à peu près compris ce que j'ai dit, mais quand même, je vais répéter. Donc, le scientifique ne crée pas. Si, le scientifique crée comme tout individu crée, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la science ne progresse que par les ruptures. Autrement dit, si je prends la différence entre la création et la découverte, il y a une grosse différence. Vous ne pouvez créer que ce que vous savez. C'est triste à dire, mais c'est ainsi. Alors vous pouvez imaginer, déformer, faire l'inverse, tout ce que vous voulez, mais jamais vous regardez l'art, par exemple, la peinture, quelle différence y a-t-il entre Kandinsky et une grotte préhistorique? Vous avez la même émotion, vous sentez les mêmes choses. L'homme crée, mais il crée au fond à partir d'une imagination, et son imagination, ça peut être formidable, mais c'est l'imagination et ça vient de lui-même. Mais quand vous arrivez sur quelque chose que vous n'avez jamais vu, et c'est ce qui est arrivé au moment où on a découvert la mécanique quantique, là, vous êtes obligé de penser l'impensable. Et ça, je peux vous dire que c'est difficile. Parce que vous ne pouvez pas, personne, aucun humain n'aurait pu imaginer la mécanique quantique ou la physique quantique avant de l'avoir trouvée. C'est impossible.
D'abord, qu'est-ce que c'est la physique quantique?
Ah! Oh là 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 là! Ça, on remonte au début, on termine le 19e siècle, nous terminons le 19e siècle, nous entrons dans le 20e siècle. Et on s'est rendu compte, alors c'était toute une histoire de la recherche des atomes, depuis les Grecs, on a cherché à voir comment la matière était constituée. Ah mais voilà.
Oh, madame le père.
Hélène. Je vais vous faire un cours. Hélène, je dois vous dire que je vous remercie beaucoup d'être là. Mais ça, j'ai bien compris, parce que j'ai failli être en retard. Moi,
aujourd'hui, c'est compliqué.
Oui, oui. Ah. Oui. Bon, reprenons.
Nous sommes dans le monde quantique.
Hélène, je vais essayer d'expliquer ce que c'est que la mécanique quantique. Bon, alors, qu'est-ce que c'est en fait, la physique quantique? La physique quantique, c'est, on a donc cherché pendant longtemps comment était constituée la matière, et on a vu que la matière, petit à petit, il y a eu une grosse bagarre entre Démocrite et Aristote, et Platon qui voulait détruire tous les documents de Démocrite, qui lui pensait que la matière était formée d'atomes, de tout petits grains de matière, et Aristote, lui, pensait que la matière était continue. Donc il y a eu une grosse bagarre entre les deux, et au début de notre ère, on est parti sur l'idée que la matière devait être continue. Sauf qu'un physicien, qui cherche toujours les lois, rien n'est jamais acquis. Donc, si c'est une croyance, ça n'est pas démontré. Tant que ce n'est pas démontré, c'est pas nécessairement vrai. C'est une hypothèse. Donc, nous partons sur des hypothèses. Donc, cette hypothèse de matière granulaire est arrivée, puis petit à petit, on a fini par montrer et voir l'atome. Alors, en fait, un atome qui constitue la matière, que l'on voit maintenant au microscope électronique, en fait, vous voyez le nuage d'électrons qui est autour de l'atome. C'est-à-dire l'atome est constitué d'un noyau petit et d'électrons qui tournent autour. Il faut savoir que si vous prenez le noyau de l'atome et que vous le grossissez pour en faire un centimètre, les électrons se trouvent à un kilomètre. Donc la matière, vous êtes constitué d'atomes, vous êtes constitué essentiellement de vide. De vide.
De vide.
De vide. Vous avez un noyau à chaque atome. Si vous l'avez grossi sur un centimètre, vos électrons se trouvent à un kilomètre. Bon, donc vous voyez un peu le vide. Et là, on s'est posé des questions, mais pourquoi est-ce comme ça? Pourquoi est-ce que les électrons sont là comme ça? Et on a vu qu'en fait, à cette échelle-là, la matière n'est pas nécessairement, ne peut pas être continue, mais que tous ces particules qui constituent la matière avancent en faisant des sauts. D'où le mot quantique.
Ah ouais.
Vous sautez d'une orbite à l'autre, vous sautez comme un kangourou, ouais. Vous avancez dans ce monde à l'échelle atomique, vous avancez comme un kangourou. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller continuellement d'un truc à l'autre.
Et ça, on le trouve à la fin du 19e ?
Et ça, on le trouve à la fin du 19e, début du 20e siècle.
D'accord.
Voilà. Et alors, évidemment, ça fait un champ, une ouverture extraordinaire de tout ce que vous pouvez utiliser et fabriquer à partir des atomes. Alors, il faut voir que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, quand on fait une rupture, quand on trouve quelque chose de nouveau, il nous faut penser l'impensable. Et au fond, ce qu'on appelle un visionnaire, c'est celui qui est capable de penser plus vite l'impensable que les autres. Et de se dire, tiens, avec ça, tchac, je vais pouvoir faire ça. Voilà. Donc ça, c'est la grosse différence.
Et après, il va falloir qu'il le trouve, c'est-à-dire qu'il vérifie.
Et après, il va falloir qu'il vérifie avec les lois, puisque le physicien, c'est le législateur de la science. Il va falloir qu'il vérifie avec les lois si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, quelles sont les conséquences de ça. Donc on a eu ensuite toute une série de personnes qui ont travaillé, enfin de scientifiques et de savants qui ont travaillé sur les lois de la mécanique quantique.
Alors j'imagine que l'évolution des outils qui vous permettent de travailler a aussi joué sur les trouvailles, mais ce que vous avez trouvé.
Oui, alors, les premières expériences de physique, évidemment, c'était des expériences simples, c'était des expériences à notre échelle, c'était ouais. L'échelle macroscopique. Tandis que maintenant, évidemment, là où nous allons chercher, c'est dans le domaine microscopique, nanoscopique, qui est mon domaine, et en dessous, ou bien dans les domaines beaucoup plus lointains, qui sont à l'échelle de l'univers.
Bon. Alors, on va aller sur ce que vous cherchez, parce que vous dites nanoscopique et au-delà. Au-delà, ça veut dire...
Au-delà, ça veut dire au niveau de l'atome, au niveau de...
Ouais. Mais déjà,
du noyau. Oui, un atome, c'est un dixième de nanomètre.
D'accord.
Au gros, quelques dixièmes de nanomètre. D'accord. Voilà, donc, quand vous avez des objets nanoscopiques, c'est des objets qui sont formés à partir, je dirais, d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une centaine d'atomes.
Et vous, ce qui vous intéresse, c'est l'organisation de tout ça?
Alors moi, je m'intéresse à justement la complexité quand vous commencez à construire la matière. C'est-à-dire que j'ai fait des nanos avant que le mot ne soit inventé. Quand j'ai vu ce mot sortir, j'étais très énervée parce que je trouvais très mauvais, très pas du tout français, enfin bref. Bon, c'est une autre histoire. Donc, j'ai travaillé sur des atomes et j'ai commencé à me dire, au fond, vous avez de la matière solide, là, du gaz, et entre les deux, vous avez des changements de phase. Vous prenez un glaçon, vous le chauffez, il devient liquide. Vous le chauffez encore plus fort, il devient vapeur. Ça, c'était bien connu. Et moi, je me suis dit, on va construire la matière atome par atome. C'est-à-dire qu'on va faire... Alors, j'ai fait un jet supersonique un peu. Bon, enfin, bref, je vous passe la technique. Et je mettais 1, 2, 3, 4, 5 atomes, 6, 10, etc., pour voir le comportement de ces petits objets. Et ce que je recherchais, parce que ce qui m'a fasciné, et ce que j'ai trouvé finalement, c'est ça qui a fait ce que je suis, c'est les effets collectifs. C'est à partir de quand vous avez... alors, je travaillais sur les métaux. Donc, à partir de quand vous prenez un atome, donc vous avez le noyau, petit noyau, les électrons, très loin, qui tournent, tranquille, et puis vous en prenez deux. Alors, c'est des électrons qui se touchent. Alors, ils s'échangent, ils passent de l'un à l'autre, etc. Ça fait des liaisons. Puis vous en prenez trois, etc. Mais ils tournent toujours autour de chaque noyau. Et quand vous en prenez beaucoup, eh bien, ils se mettent en phase et vous avez un effet collectif des électrons.
Et cet effet collectif, c'est qu'ils sont stables?
Non, c'est qu'ils se baladent tous ensemble.
Ah oui, d'accord. Donc, notre chaise, elle se... Voilà, tout ensemble.
Voilà, ils se déplacent tout ensemble, ils bougent, et donc c'est ainsi que j'ai mis en évidence la couleur des petits nanos de métaux. Enfin, et donc ce qui m'intéressait, c'était cette transition. Et cette transition, finalement, vous la retrouvez partout. J'ai été très surprise un jour, en allant dans un laboratoire de biologie, de voir une boîte de pétri. Et où il y avait des cellules cardiaques.
Les gens travaillaient. Une boîte de pétri.
Une boîte de pétri, c'est un verre coupé comme ça. Donc vous voyez, et dedans, vous faites
vos expériences.
Voilà. Et donc, dans ce petit réceptacle, les gens travaillaient sur des cellules cardiaques. Et chaque cellule cardiaque a un battement qui lui est propre. Bon, donc, ils commençaient à en mettre un, deux, trois, et au bout d'une centaine, ils battent à l'unisson.
Ils battent à l'unisson.
Ouais.
Donc, ça venait confirmer ce que vous avez dit.
Donc, c'est aussi un effet collectif qui se met en place. C'est-à-dire qu'à partir... Alors, bien sûr, ces effets collectifs, ils vont se mettre en place petit à petit, en fonction de ce que vous regardez. Ce n'est pas toujours au même moment, à la même quantité de particules que vous allez avoir, ça. Voilà. Donc, c'est une...
Donc, ça signifie que tout est finalement une organisation collective.
Alors, ça signifie deux choses. Ça signifie que Descartes n'avait pas complètement raison, c'est-à-dire qu'en fait, il avait raison dans un certain sens, et j'aime beaucoup la raison de Descartes, mais quand il disait, à partir du moment où on a décomposé quelque chose en éléments simples, on est capable de comprendre l'ensemble, c'est pas toujours vrai. C'est vrai parfois, mais ce n'est pas toujours vrai, parce que si vous avez des effets collectifs qui dominent l'ensemble, vous vous trouvez dans une situation qui est différente et que vous ne pouvez pas comprendre à partir de l'atome.
Et ça, c'est vrai pour la matière, comme inerte ou vivante.
Inerte ou vivante.
Bon.
Et donc, et alors, vous comprenez maintenant que quand vous avez quelque chose d'extrêmement complexe comme la Terre, ou le climat, eh bien, c'est très compliqué à modéliser.
À modéliser.
Oui, et à comprendre ce qui se passe. Parce qu'un petit dérèglement quelque part peut vous mettre un dérèglement gigantesque ailleurs.
Bien sûr.
D'où ce qu'on voit aussi comme phénomène actuellement.
Mais on a vu qu'il finissait par avoir une organisation. Cette organisation faisait qu'ils obéissaient d'une certaine façon à des règles collectives. Bon.
Alors,
une fois qu'on a dit ça,
là, vous...
qui est celui qui distribue les ordres là-dedans?
Alors ça, c'est intéressant parce que ça sera d'abord... mon prochain livre, ça va être sur l'ordre.
Ah, ça tombe bien.
Sur l'ordre, parce que je suis assez fascinée, si je puis dire, ou pas vraiment, parce que, mais quand même très intéressée par l'ordre. Comment l'ordre apparaît? Pourquoi l'ordre? L'ordre dans les cristaux, mais partout vous avez de l'ordre. Et ce qui est la chose la plus extraordinaire, c'est lorsque vous voyez ce que vous transmettez à vos enfants, vous ne transmettez pas, comme on disait, la chair de ma chair, le sang de mon sang, pas du tout. Vous transmettez à vos enfants de l'ordre. C'est-à-dire que cette molécule d'ADN qui est absolument extraordinaire, qui est cette double hélice, et dans lesquelles vous avez des molécules, quatre molécules. Vous rendez compte que vous n'avez que cinq atomes pour fabriquer la molécule d'ADN. Cinq atomes seulement, c'est pas beaucoup. C'est uniquement l'ordre de ces atomes qui vous donne la molécule d'ADN. Et quand vous la voyez, comment elle est, d'un côté il y a du phosphore, et de l'autre côté vous avez les bases, quatre bases. Et c'est l'ordre de ces bases qui fait ce que vous êtes.
Alors l'ADN lui-même, c'est...
Ah, c'est une molécule extraordinaire.
Eh bien, est-ce que vous pouvez nous la faire découvrir?
Ah, ben, ça c'est compliqué.
Oui. Parce que c'est une organisation là aussi.
C'est une organisation. C'est une organisation qui est intéressante parce qu'elle elle rappelle un peu ce que c'est que le temps. C'est-à-dire que pour certains, le temps est linéaire, pour d'autres, est périodique et cyclique. Et en fait, il n'est ni linéaire complètement, ni périodique complètement, il est plutôt en forme d'hélice. Alors on ne sait toujours pas ce que c'est que le temps, mais au moins on a à peu près cette idée-là dans la tête, qui est une image qui n'est pas trop fausse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'ADN, c'est une hélice aussi.
C'est ça.
C'est une double hélice.
C'est comme ça qu'on l'illustre, en tout cas.
C'est une double hélice, avec d'un côté... Et comment est faite cette double hélice? Cette double hélice est faite essentiellement avec des atomes de carbone. Alors, moi, je rigole bien quand on dit les villes décarbonées, parce que tout le monde est fait de carbone, mais enfin, ça ne fait rien. Voilà, c'est peut-être pas le bon mot. Il faudrait utiliser des bons mots, des mots qui soient justes, qui ne représentent pas n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi, n'importe qui. Donc, c'est très important les mots pour expliquer parce que si vous utilisez des mots qui laissent imaginer quelque chose de faux, alors vous véhiculez quelque chose de faux. Et donc cette histoire de ville décarbonée m'exaspère. Bon, c'est pas décarboné, c'est sans CO2 ou ce que vous voulez, mais pas décarboné, oui. Parce que nous ne sommes faits que de carbone. Bon, alors j'ai pas envie de me détruire moi-même.
Ce qui est peut-être le cas de ceux qui veulent nous décarboner.
Oui, donc on est essentiellement basé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Et en fait, lorsque vous voulez, c'est tout à fait intéressant, les atomes de carbone, quand vous voulez les organiser ensemble, ils s'organisent, et en fait, ils s'organisent un peu comme des nids d'abeilles. Vous savez, les abeilles forment des hexagones pour faire leur nid, les frelons, les guêpes, tout le monde. C'est parce que ça économise de la place, mais surtout, vous pouvez paver un sol entier, vous pouvez faire des plans avec des hexagones. Mais quand vous voulez tourner l'histoire un peu, vous en enlevez un atome de carbone, vous faites un pentagone. Et le pentagone vous fait courber les molécules. C'est pour ça que, par exemple, dans un ballon de foot, vous avez des hexagones, puis tout d'un coup, vous voyez un pentagone. C'est parce que sinon, vous ne pourriez pas le fermer.
Mais les Chinois avaient compris ça bien avant le ballon de foot, puisqu'ils avaient sous les pattes de leur lion, quand vous rentrez dans les temples, vous voyez des sphères qui sont faites avec des hexagones, dont ils sont obligés de temps en temps de mettre des pentagones. Bon, donc le pentagone vous permet de tourner. Et donc cette molécule d'ADN, elle a justement des pentagones.
Et ça, c'est une loi.
Ben, c'est une observation, en tout cas. D'accord. Et on a compris que pour faire twister, il nous fallait du pentagone.
D'accord. Bon, écoute, il me semble que nous progressons dans la démarche scientifique, en tout cas. Et alors, vous-même, vous poursuivez votre recherche, avez-vous dit, dans ce sens-là, puisque vous allez venir sur les donneurs d'ordre, en quelque sorte.
Alors oui, tout est ordre, oui. Mais je reprends une phrase d'un cristallographe célèbre. Quand vous prenez un cristal pur, magnifique, il est transparent. En fait, tout, et rien ne peut se faire. Mais si vous voulez, vous prenez du quartz, par exemple, c'est le cristal pur par transparence, par excellence. Et pour lui donner une petite coloration, il faut lui mettre une petite impureté. Il faut enlever un atome et puis en mettre un autre. Le quartz, c'est de la silice, hein, parce que le quartz, vous avez le vert, comme ça, c'est du quartz amorphe, c'est de la silice amorphe. Vous avez le quartz qui est cristallin, et puis quand vous le pilez, vous faites du sable. D'accord. Donc c'est l'élément avec d'un côté vous avez le carbone pour les vivants et de l'autre côté vous avez la silice pour les inertes. Voilà, c'est les deux point clé de la classification périodique. Et donc, quand vous êtes dans ce quartz qui est transparent, qui est absolument magnifique, si vous voulez lui donner des couleurs pour en faire de l'améthyste ou de... Enfin, peu importe, alors vous lui mettez un petit défaut. Et le cristallographe en termine un de ses articles, une de ses conférences, en disant finalement, les cristaux sont comme les hommes. Ce qui est le plus intéressant... Ce sont les défauts.
Et vous, vous allez travailler sur les défauts ?
Et moi, je trouve qu'effectivement, les défauts sont très attirants.
D'accord. Alors, vous, on voit bien...
Mais vous ne pouvez avoir de défauts que si vous avez de l'ordre.
Eh oui, toujours. Absolument. Donc, on voit bien quel est le chemin, l'ordre de vos recherches.
Oui.
Quand on va sur le savoir scientifique en général,
oui.
Ce savoir scientifique, ce qui est, j'aimerais que vous reveniez là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de constater comment il est réparti dans quelle population, quel cerveau, quelle civilisation autour de la Terre. Or, les lois dont nous avons parlé. La plupart d'entre elles sont nées finalement en Occident. Toutefois, vous avez également.
Elles sont pas nées en Occident. Elles sont nées en Europe.
Voilà, en Europe. Et les Européens, du point de vue scientifique, quelle est. Oui, l'Amérique n'est jamais qu'une extension de l'Europe dans ce domaine.
Absolument.
Voilà. Qu'est-ce qui a fait que le savoir.
Enfin,
scientifique...
en Europe. Hélène, je considère que la Russie est européenne. Vous hein. Pardonnez.
Oui. Et donc, qu'est-ce qui a fait en particulier que le savoir scientifique puisse éclore en Europe, se développer en Europe ? Est-ce que, parce que vous m'avez cité cet exemple et je voudrais que vous le développiez, c'est l'histoire de l'alphabet, qui est typiquement une construction scientifique, puisque... Il obéit
alors,
à l'organisation.
L'alphabet, donc, c'est bien antérieur à la première démarche scientifique qui a été faite par Galilée,
oui.
Donc est vraiment, vraiment européen. Et puis toute l'Europe après, on a eu donc en fait, l'Europe a été constituée à l'époque des pays qui travaillaient, c'était bien sûr les Italiens, les Français, les Anglais, les Prussiens, enfin tout ce qui était autour de l'Allemagne et les Russes.
Oui.
C'était les pays qui travaillaient ensemble et qui ont construit tout le savoir sur lequel nous vivons. et qui ont construit, et les deux pays, je dirais, pilotes, et qui sont restés, et qui sont toujours les pilotes en mathématiques, sont les Russes et les Français. Les Français et les Russes, comme vous voulez, peu m'importe, mais ça, c'est comme ça. Donc,
qu'est-ce qu'il y a de commun pour que ce soit eux?
Alors, ça c'est une histoire.
On va y venir après avec.
C'est un peu une construction que. Ce n'est qu'une hypothèse. C'est une hypothèse. En fait, ce qui est intéressant, c'est de la chose suivante. C'est-à-dire que. On ne pourrait pas faire progresser la science si on n'avait pas une langue. Une langue construite. C'est-à-dire qu'on pense dans sa langue, et donc il est indispensable pour faire la science de penser dans sa langue. Alors, ensuite, on peut communiquer, et c'est ce que nous faisons en anglais, parce que tout le monde parle anglais, donc on communique tout le temps en anglais. Mais l'anglais, c'est plutôt le véhicule de transport de l'information. Mais la pensée elle-même, elle est construite dans sa propre langue. Ça, c'est clair. Et ça, c'est pour ça qu'on a intérêt à avoir une langue structurée, très structurée.
Et ça, vous allez le dire.
Dans ce sens, le français est une langue structurée, le russe aussi, naturellement. Donc voilà. Alors, il y a une différence assez intéressante entre les langues occidentales et les langues orientales. Les langues orientales, les chinois ont une langue magnifique aussi, mais une langue avec très peu de grammaire. Une langue avec très peu de grammaire, et parce qu'ils sont basés sur des idéogrammes et ils travaillent sur des concepts. Donc en fait, ils font des agencements de concepts et donc à l'époque, enfin je dirais 1500 ans avant notre ère, entre 2000 et 1500 ans avant notre ère, vous aviez les langues, le chinois, enfin et les langues adjacentes comme le japonais, etc. Vous aviez de l'autre côté de l'Atlantique, on les oublie souvent, mais ce sont les Olmèques et les Mayas qui avaient aussi des langues avec des idéogrammes. Vous aviez les Égyptiens qui avaient des langues avec des idéogrammes, mais qui étaient très utilisés essentiellement pour les choses sacrées. Et puis, voilà, c'était essentiellement basé sur des idéogrammes. Et d'ailleurs, je pense que maintenant, quand on fait des petits pictogrammes un peu partout, on devrait de temps en temps se mettre des mots plutôt que des pictogrammes. Enfin bref, bon, ça, allons, oublions ça. Donc, je reprends l'histoire de la langue. Donc, c'était des langues qui étaient basées sur des concepts. Et donc, voilà. Et puis, les Phéniciens, qui aujourd'hui sont les Libanais, les Phéniciens, eux, étaient un peu considérés comme des esclaves des Égyptiens à l'époque. Mais ils avaient envie de communiquer et que c'était des commerçants. Et donc, ils ont inventé l'alphabet. C'est-à-dire qu'il leur permettait d'écrire des mots avec un minimum de signes. Et ça, c'est formidable, parce que c'est le début de la combinatoire. L'autre jour, j'étais dans une librairie et puis j'avais un ami qui est philosophe qui présentait son ouvrage et je regardais tous les livres autour de qui l'entouraient et je me disais, mais avec juste un alphabet, on est capable d'écrire tellement de livres, tellement de
tous différents.
Tous différents. C'est extraordinaire.
Alors, c'est votre histoire.
C'est comme les humains avec l'alphabet dont on parle tout à l'heure, avec les atomes. Donc on arrive avec un minimum de lettres à faire une combinatoire et à construire un alphabet. Et quand vous avez compris cette construction de combinatoire avec les lettres, alors après, bien sûr, cet alphabet phénicien, il est parti vers le nord, il a donné l'alphabet grec, et puis après latin, et puis cyrillique, évidemment, et de l'autre côté, hébreu et arabe. Et donc, cette affaire d'alphabet est très intéressante. Elle est très intéressante parce que j'ai écrit un article avec un japonais, on s'est amusé tous les deux, parce que je le connaissais bien, c'était très amusant. On s'est dit, on va l'écrire ensemble. Et donc, on pensait chacun dans notre langue, on communiquait en anglais. Et donc, on n'avait pas la même logique. Parce que moi, j'avais une logique beaucoup plus combinatoire avec ma langue alphabétique. Et lui avait une logique beaucoup plus circulaire avec sa langue. Et donc, ça nous a pris deux fois plus de temps, mais on s'est beaucoup amusé. Et on a beaucoup appris sur notre façon de penser. Donc, c'est très important. important. Donc cette langue avec laquelle on pense la science, qui est notre langue, doit être travaillée, apprise, comprise, et ne pas faire n'importe quoi et changer la grammaire tous les 4 matins. Ça nous a donné une certaine logique de pensée. Et cette logique de pensée, elle nous a permis d'avoir cette construction de la démarche scientifique. Et je pense que c'est pour ça que la démarche scientifique est sortie en Europe, avec les langues latines. Et avec le cyrillique, avec les Russes.
Et pourtant, bon, nous sommes dans une époque contemporaine où, après avoir tant, pas cru, mais accompagner l'idée de progrès et de progrès scientifique, on se demande aujourd'hui si dans le public il n'y a pas une certaine frayeur devant les évolutions du progrès scientifique s'ils se disent pas oh là là, où va-t-on, etc.
Alors c'est pas une question de scientifique, c'est une question de société. Je pense que c'est une... Bon, moi, tout d'abord, je crois que c'est indispensable d'apprendre deux choses quand on est petit à l'école maximum, c'est sa langue et la science. Il n'y a pas... Après, tout le reste, c'est du gadget. Enfin, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais c'est un peu vrai, quoi. Voilà, il faut se mettre sur nos deux pieds, quoi, pour avancer. Et une fois qu'on a ça, on peut faire passer des messages. Parce que la science est la seule construction humaine qui progresse. Tout à l'heure, je vous racontais l'histoire de l'art. Il n'y a pas de progrès dans l'art parce que vous ressentez la même chose devant un beau tableau du peintre que vous choisissez, quelle que soit l'époque. Donc vous n'avez pas vraiment de progrès au sens progrès, dans le sens j'accumule, je construis en accumulant. Or, en science, la difficulté, c'est que vous êtes toujours obligé d'apprendre tout ce qu'ont fait vos prédécesseurs, alors je ne dis pas dans les détails, mais pour avancer. Et si vous avez un trou, vous n'avancez plus. Alors que lorsque vous êtes dans une autre discipline, vous pouvez contourner le trou, vous pouvez le reprendre plus tard, vous pouvez... Tandis que nous, on est obligé d'apprendre dans l'ordre. Toujours dans l'ordre.
Il n'y a de progrès que scientifique.
Un progrès, il n'y a pas... Oui, il y a ce progrès-là est scientifique. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que les gens... ce qui me fait le plus peur, c'est le décalage entre ceux qui ont la connaissance scientifique et ceux qui ne l'ont pas. Non pas parce qu'ils ne sont pas capables de l'avoir, mais parce qu'ils ne l'ont pas apprise, et que cet écart ne fait que croître, et que vous avez des gens qui utilisent la connaissance scientifique pour fabriquer des choses de la technologie qui ne convient pas à la société. Et c'est ça, et c'est là où l'éthique est très importante, parce que si une nouvelle technologie n'est pas acceptée par la société, eh bien, c'est l'échec.
Alors ça, c'est très très important, parce qu'effectivement, on a abordé aussi cette question hier, mais vu par vous, c'est très très important de l'analyser. C'est tout ce qui est amélioration, transformation de l'homme, etc., en vue de la société, en vue d'allonger la vie pour l'éternité, enfin bref, voilà, donc tout ça. Alors, vu par la physicienne, ça donne quoi ?
Alors, première constatation. Vous ne pouvez pas tout apprendre. Donc, vous devez faire confiance à certaines personnes pour avancer. Et bon, nous, entre nous, par exemple, à l'académie, on n'est pas tous au même niveau de connaissances, et donc certains en connaissent plus dans un domaine et dans un autre. Donc quand on veut choisir quelqu'un, on fait confiance.
Bon. Je vais vous dire, jusqu'à présent, tout le public qui est là a fait confiance à ce que vous nous avez dit.
Bon, ça, c'est peut-être pas ce que vous avez fait de mieux, mais enfin, vous l'avez fait. Bon. Donc, non, il faut faire confiance. C'est important là, de faire confiance, mais il faut quand même vérifier. Il faut toujours se dire, C'est bien juste ce qu'on a dit, c'est bien ça, c'est bien comme ça. Donc il y a quand même une vérification de soi-même, un esprit critique qui est propre aux Français, qui est très important. Et alors là, il faut un peu faire attention à tout ce qui est idéologie. Et je vais vous donner un exemple très simple. Vous prenez, alors en ce moment, on retourne à sainte nature. Tout ce qui vient de la nature est beau. Tout est parfait. Tout est extraordinaire. Il faut tout conserver. Il faut avoir toute la biodiversité extraordinaire. Il faut remettre des ours, des loups, des machins. Bientôt, on remettra des dinosaures. Bon, peu importe. Il faut absolument, la nature est parfaite. Bon, vous prenez. Alors, on vous dit, ah, vous êtes malade, prenez donc telle plante. Bon, vous mangez la plante, et imaginez, ça vous guérit. Ah, vous êtes très content. Mais si cette même molécule qui vous a guéri et qui a été faite par la plante, et que vous l'avez prise, c'est la molécule qui vous a soigné la cellule malade, bon, parfait. Mais si cette molécule est faite par les hommes, et industrialisée par une entreprise de laboratoire, alors là, elle est rejetée par l'idéologie de sainte nature. C'est quand même un comble. C'est-à-dire que vous prenez votre sel de cuisine. S'il vient de la mer, oh là là, il est pas fabuleux. Si vous prenez du sodium et du NaOH avec une NaOH, vous les mettez ensemble, ah ben non, ça c'est fabriqué par l'homme, c'est moins bon. C'est chimique. Ah oui, c'est chimique, alors c'est pas bon. Ça, c'est vraiment à penser une erreur. C'est-à-dire se dire... Oui, alors maintenant, sainte nature, vous allez en forêt, vous ramassez des champignons vénéneux, vous les mangez, vous êtes mort. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc, il faut garder la raison. Il faut se dire, cette molécule, c'est celle qui soigne, qu'elle soit faite d'une manière ou d'une autre, si elle est là, elle soigne. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que vous êtes mortels, nous sommes tous mortels. Mais c'est notre ordre qui est mortel, c'est notre construction qui est mortelle. Parce que les atomes qui nous fabriquent, qui nous sont propres là, ils sont éternels, ils datent du début de l'univers. Donc que vous les fabriquiez d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas d'importance, c'est la même chose. Donc le résultat est là. Donc en fait, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire que... de ne pas croire toutes des choses qui sortent de la raison. De l'autre côté, il faut se méfier des découvertes scientifiques et correctement s'en méfier, se dire attention, est-ce que ça va être utile pour la société? Est-ce que c'est bon? C'est pas la peine, par exemple, de faire des recherches sur le virus le plus dangereux qui soit et qui va tuer l'humanité. C'est absurde. Donc de l'autre côté, il faut faire attention de ne pas rentrer dans le système de gens qui vont utiliser les connaissances scientifiques pour fabriquer des objets ou des choses qui sont absolument néfastes pour la société. Oui. Donc il y a vraiment un contrôle entre la connaissance et ce que nous pouvons en faire, d'un côté, garder une raison, et de l'autre côté, la société. Et c'est là où je trouve que l'éthique est indispensable. Et il est indispensable que les scientifiques discutent avec tout le monde et essayer de faire passer les messages, dire ah oui, vous avez raison, ça on va pas l'utiliser parce que c'est mauvais.
Alors oui, ça, ce débat-là s'est posé au moment de la découverte de la fission nucléaire, et donc dans un cas c'est un armement, dans l'autre c'est une puissance d'énergie, c'est une puissance également qui permet de faire d'autres recherches, etc.
Non, mais c'est surtout aussi une puissance qui a soigné énormément, parce que les chimiothérapies qui soignent les cancers, c'est pareil. Hein. Donc il y a des côtés... Voilà. Mais c'est comme quand vous avez un couteau. Hein. Prenez votre couteau, vous coupez votre viande, mais si vous voulez tuer votre voisin, vous le poignardez.
D'accord. Donc le comité d'éthique, il doit voir les deux aspects du couteau.
Voilà.
Ben, très bien. Très, très bien. Chère Catherine Bréchignac, maintenant, on va donner donc la parole à nos amis pour quelques questions, puisque nous allons ensuite préparer notre séance suivante. Alors, une question de notre ami au troisième rang. Au deuxième rang, il est très, très actif en question, notre ami. Mais, donc, notre ami en vert, voilà.
Je voulais savoir si vous accepteriez d'aller dans le secondaire à l'introduction du cours de physique pour donner 7 heures d'amour de la physique que j'aurais bien aimé avoir quand j'avais cet âge.
Ah, mais d'abord, je l'ai fait déjà dans certains établissements. Deuxièmement, je suis tout à fait prête à partir, à aller dans les lycées, à parler aux élèves. Et à l'Académie des sciences, par exemple, nous avons des réunions ou des journées, des séminaires où on a des classes entières qui viennent à l'Académie, qui viennent à l'Institut, qui sont là et où on leur parle de sciences. Oui, je suis prête à le faire.
Autre question? Professeur Rachon.
Merci, cher président. Oui, chère madame, chère amie, il y a une expression que vous avez répétée à plusieurs reprises qui est celle de l'ordre. Mmh. De l'ordre qui nous frappe, nous médecins, et de façon vraiment primordiale. Nous avons cet ordre dans tous les êtres vivants, nous avons cet ordre dans la nature, nous avons
Absolument.
Cet ordre dans l'espace. Et dans l'espace, il y a cette infinité qu'on est obligé d'admettre avec ces vides que vous évoquiez tout à l'heure, qui étaient les trous noirs. Les trous noirs, on a l'impression qu'il y a des trous dans l'espace. Et je voulais savoir un petit peu votre réaction sur ces vides dans cette espèce d'infinité.
Alors, prenons le cas du trou noir. Je l'ai expliqué dans mon livre « L'irrésistible envie de savoir le trou noir » de manière assez simple.
Vous allez pouvoir le dédicacer.
Oui, je peux le dédicacer, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'un trou noir ? Alors, un trou noir, bon, il est noir parce qu'on ne le voit pas. Si on ne le voit pas, ça veut dire qu'il n'émet pas de lumière. Bon. C'est la chose suivante. Lorsque vous avez, vous prenez le soleil, et puis, vous avez les planètes qui tournent autour du soleil, et donc, au bout d'un moment, si vous avez des planètes qui sont de plus en plus loin, elles peuvent s'échapper du système solaire. Elles ont la vitesse, en fonction de la vitesse qu'elles ont, elles peuvent s'échapper du système solaire. Bon. Mais dans un trou noir, la gravitation, c'est-à-dire la force, la masse, est tellement concentrée que pour sortir, il vous faut une vitesse, donc une énergie en fait, un demi-mv2, mais une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et ça, c'est impossible. C'est-à-dire que si vous cherchez à sortir du trou noir, il vous faudrait une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et c'est impossible, parce que c'est une des constantes fondamentales. C'est une des choses absolument extraordinaires. La vitesse de la lumière, vous savez, quand vous vous mettez... Enfin, je ne vais pas vous parler là-dessus, parce que j'en aurai pour une heure. Mais il faut écouter Hélène, c'est très important aussi. Donc quand vous avez quelque chose qui peut... Donc, tout... Et comme c'est plus grand que la vitesse de la lumière ne sort pas non plus du trou noir. Donc, à partir du moment où vous êtes happé dans le trou noir, boum, voilà. Et comme on ne sait pas très bien ce que c'est que la matière, puisque je vous ai dit que c'était fabriqué presque que du vide, et en plus je ne suis pas allé encore plus loin, mais c'est presque que de l'interaction, eh bien, dans ce trou noir, la matière a un état que l'on ne connaît pas. Et donc en ce moment, on est en train de regarder justement le gros trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie. Je vous rappelle que notre galaxie, c'est la Voie lactée. Se trouve au centre de notre galaxie et on regarde comment on essaye de regarder ce qui s'en approche et puis après ça part dans la spirale et on ne le voit plus. Voilà. Donc ça c'est un des points. Mais ce qui est fabuleux, c'est que en fait les trous noirs, bon maintenant on commence à comprendre un peu, mais ce qu'on comprend pas du tout, c'est la matière noire. Alors là, c'est pourquoi on l'appelle matière noire, parce qu'elle a la même force gravitationnelle que le reste, mais on la voit pas. Donc on sait pas où elle est.
Ah, c'est commode. C'est fait partie du vide. Question. Et puis monsieur, on vous donnera une petite question. Pardon, madame.
Pardon, monsieur, vous êtes le premier. Chère madame, vous avez dit à la fin de votre propos que les atomes sont éternels et datent du début de l'univers. Mmh.
Oui, alors, enfin, ce qu'on
comment,
a.
C'est ce que vous vouliez, la question que vous vouliez poser avant. Bon. Alors, comment est-ce que ça s'explique avec la distribution, les siècles, le nombre de personnes beaucoup plus importantes, il y a peut-être moins d'animaux, mais il y a plus de personnes. Ces atomes datent tous, ils ont tous le même âge, alors.
Oui, oui, non, oui enfin, s'ils ont un âge.
Ah oui, ça c'est très...
Ma deuxième question était...
C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir, vous, chère Martine, des atomes qui étaient dans le corps d'un dinosaure.
Ouais, un sujet pour des rêves.
Sauf que puisqu'ils n'ont pas de... Ils sont éternels, donc le temps n'agit pas sur eux. Et puisque le temps n'agit pas sur eux, ils n'ont pas de mémoire. C'est très dommage, mais donc vous ne ferez rien en faire.
Ah oui. L'autre question est sur le début de votre propos. Vous nous avez montré comment les atomes se rapprochent les uns des autres, puis agissent en groupe. Hein. Mais alors, les combinaisons, par exemple, puisque vous avez particulièrement travaillé sur les matériaux, sujet que je connais un tout petit peu dans le domaine de l'aluminium, par exemple, on n'a jamais un métal naturel. On a des compositions avec des inclusions de magnésium, de tout ce qu'on dit. Un alliage, merci, je ne trouvais pas le mot. Et ces alliages-là, sont-ils stables, finalement? Ou arrive-t-on à un certain moment à observer une désagrégation de cet effet de groupe dont vous nous avez parlé d'une façon si convaincante?
Oui, alors justement, ça c'est un des problèmes. Ça rejoint d'ailleurs le problème que vous connaissez bien, ce qui est aussi sur le problème du verre. C'est-à-dire que le verre est amorphe. On sait que la forme amorphe est moins stable que la forme cristalline. Beaucoup, on a fait des tas de essayé des tas de modèles pour faire croire que le verre qui était là allait couler et qu'on n'avait pas attendu assez longtemps pour qu'il coule, et il ne coule pas. Donc en fait, dans ces formes-là, c'est comme c'est la même chose que si vous regardez un paysage avec des vallées, vous avez des creux, des vallées qui sont plus profondes que d'autres. Alors, la vallée la plus profonde, c'est celle qui correspond au cristal parfait, à l'énergie minimale. Mais vous avez une vallée intermédiaire qui correspond aussi à un minimum. Et si la montagne entre les deux est infranchissable, ben vous allez rester dans ce minimum-là. Vous n'allez pas passer à l'autre. Donc, en fait, vous allez rester dans des formes et des alliages et des combinaisons qui ne vont pas correspondre à la combinaison minimale, mais qui vont correspondre à des combinaisons minimales dans un certain local. Alors après, évidemment, si on met tout ça dans le trou noir, quand on en sort, je sais pas, ça se met. Mais au fond, les atomes que nous avons sont vraiment des atomes qui... Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on a pris comme... au niveau du temps... On a pris des transitions atomiques parce qu'elles ne bougent pas. Parce que l'histoire de la mesure du temps, c'est une histoire phénoménale, c'est extraordinaire. On a d'abord regardé, pris comme la Terre qui tournait sur elle-même, et puis on s'est rendu compte que la Terre ralentissait. Alors, il y a 150 000 ans, une journée faisait 25 heures, aujourd'hui elle en fait 24, dans 150 millions d'années, pardon. Dans 150 millions d'années, elle va en faire 25, donc en fait elle ralentit. Donc notre mesure du temps n'était pas bonne. Après, on a pris la Terre autour du Soleil, c'est pareil, on a eu des fluctuations. Finalement, on a pris quelque chose qui était absolument stable, qui est des transitions atomiques. Parce que justement, les atomes ne sont pas sensibles au temps. Ce qui fait toute une physique extraordinaire. Hein. La physique atomique, elle est fabuleuse, justement, parce qu'on n'a pas de... Vous pouvez avoir c'est le temps qui revient en arrière, parce que de toute façon, ils ne sont pas sensibles.
Oui, c'est ça. Question ?
Oui, madame. Je voudrais revenir sur cette notion du début de l'univers. Vous faites donc partie des physiciennes et physiciens qui croient au début, qu'il y a un début à l'univers.
Non. Je ne fais pas du tout partie de cette catégorie-là. Je fais partie ni d'une catégorie ni de l'autre. Pour l'instant, je sais que... On remonte à ce qu'on appelle le début de l'univers, à ce que nous appelons le début de l'univers qui nous sert. Mais alors avant, quand on est de l'autre côté du mur de Planck, on peut rien dire. Donc le temps n'a pas de sens. Donc je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà.
En fin de salle.
Voilà. Monsieur. Pour l'instant, on est vraiment dans quelque chose que l'on ne comprend pas. Ce qui est très intéressant, c'est dans votre question sur le temps, c'est qu'on mesure le temps. C'est, le temps est ce qu'on mesure avec la meilleure précision au monde. On la mesure de manière absolument extraordinaire. On a des appareils maintenant, grâce aux atomes, pour qui le temps n'a pas d'importance. C'est ça qui est fabuleux. Le temps, on le mesure de manière extraordinaire. Mais l'espace aussi, mais moins que bien que le temps. Mais après, au bout d'un certain moment, on ne peut pas remonter. On sait pas ce que ça veut dire. Parce que voilà. Donc je peux pas vous dire. Donc moi, je pars d'un temps epsilon. Voilà.
Voilà que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Voilà.
Chère madame, bonjour. Vous avez évoqué la physique quantique en début d'intervention. Et concrètement, quelle promesse ou que peut-on attendre de cette nouvelle science qu'on a découverte il n'y a pas si longtemps ?
Oh bah déjà, elle a donné des tas de choses parce que la physique quantique, vous l'avez tous autour de votre bras quand vous avez votre montre. Votre GPS n'est basé que là-dessus. Parce que votre GPS, si le GPS, alors non seulement la physique quantique, mais en plus le GPS, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que les objets, les composants sont des composants quantiques, mais en plus vous devez faire intervenir la relativité générale, c'est-à-dire le fait que le temps n'est pas le même mesuré dans un satellite et sur la Terre, et le temps propre, j'entends, et que si vous ne tenez pas compte de ça, eh bien votre voiture, vous allez petit à petit la retrouver je ne sais pas combien de mètres de ce que vous croyez, là où vous êtes. Donc en fait, à la fois la relativité et la physique quantique qui ont été les deux grosses ruptures, alors on ne sait pas les relier l'une à l'autre, mais pour l'instant elles sont séparées, deux grosses ruptures du début du XXe siècle, ça a donné une explosion de tout ce que vous utilisez maintenant.
De découvertes pratiques. Dernière question, monsieur, comme promis.
Madame, je crois que nous pourrions avoir une conversation jusqu'à minuit. Oui. Compte tenu de tout ce que vous avez dit, je me contenterai dans un premier temps de dire qu'il y a un excellent exemple d'histoire de produits de synthèse remarquable. Si on regarde le fromage, le bleu de Bresse ou le Roquefort, et les parties bleues, c'est du Penicillium notatum, que je sache. Et que, si on était resté au Roquefort pour traiter la tuberculose, eh bien, il y aurait encore beaucoup de tuberculose et
exactement.
Beaucoup de sanatorium.
Exactement. Oui, vous voilà. Avez parfaitement raison.
C'est la parenthèse. La pénicilline de synthèse a été l'éradication de la tuberculose, et c'est fantastique.
Exactement.
Bon, je ferme ce petit illustration. J'ai eu la chance, dans la malchance, de fréquenter le prince Ringuet en son temps, qui étudiait la matière et les cosmiques. Et j'ai dû abandonner toutes ces questions-là, à cause d'un physicien d'ailleurs. Je ne suis pas diplômé, mais comme je suis vieux, sans être uber-rive, j'ai des petits-enfants, et je les vois abandonner la physique, parce que la physique les rebute, et ils passent à la philosophie. Alors, j'avais une première question, c'était de vous demander, est-ce que vous croyez que la raison est le propre des physiciens et qu'elle n'appartient pas aux philosophes ?
Alors, ce sera la seule, s'il vous plaît, parce que nous sommes liés à la pendule atomique que nous avons avec nous.
Tout d'abord, il faut savoir que moi j'ai hésité entre les sciences et les lettres, et en particulier la philo, que j'ai choisi les sciences par paresse.
C'est joli.
Parce que je ne savais pas apprendre des quantités et j'étais très émerveillée par ceux qui apprenaient énormément de choses. Et moi, je préférais raisonner, ça prenait moins de temps dans ma tête. Bon, donc en fait, non, vous pouvez très bien être les deux. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai un peu mis dans mon livre, c'est-à-dire quand j'ai mis l'irrésistible envie de savoir, j'ai vraiment essayé de faire passer beaucoup d'épistémologie, beaucoup de philosophie, beaucoup, enfin, ce que je pense être important, parce que C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous devez marcher sur deux pieds. Voilà, c'est indispensable.
Puisque nous avons l'honneur d'avoir Hélène Carrère donc, auprès de nous, l'Académie française, il y a une... L'alphabet, le dictionnaire académique, je crois qu'on en est à la lettre S et la lettre T arrive, et que le mot temps devra quand même être défini. Au cours des nombreuses éditions de l'Académie française, le temps est exclu, il n'est pas défini. Et Jean d'Ormesson, dans les Nous sommes des égarés, a dit comment il était consterné par l'histoire du temps qu'il associait à la mort. C'est assez triste. Au point de vue philosophique, tout comme c'est assez triste d'entendre l'Académie des sciences dire qu'on ne sait pas ce qu'est le temps, qu'il peut être linéaire ou cyclique. C'est monstrueux.
Monsieur, je vous remercie. Ceci va donc clore cette magnifique classe de physique à laquelle nous a convié Catherine Bréchignac, et je dois dire pour notre plus grand plaisir intellectuel et technique. Joie de vous accueillir.